Jet FM, the ocean for you, at 21h. La Belge russe est tous les jours à 14h avec Johnny to Bay. Barge russe, donc 1196, donc cette émission se nomme Mars, la planète du mois et de la guerre. Donc, c'est la planète du mois MOI, pas du mois MOIS, parce que tout le monde sait forcément que Mars, c'est le troisième mois de l'année. Et normalement, si tout se passe bien, nous sommes un jour du mois de mars 2025 ou 2030, à voir. Anyway, s'il n'y a pas eu trop de bourde au niveau de Jet FM de la programmation. Alors, on est en mars, dieu de la guerre. Mais avant de commencer l'émission, vraiment ce que je veux dire, quoi, là, j'ai fait. J'ai changé d'air un petit peu. Je suis parti deux jours. Une nuit plutôt. Un jour, deux jours et une nuit. Enfin, je sais pas quoi. Je suis parti, en tout cas, dans ma famille. Et alors là, bon, je me suis acclimaté au truc, quoi. C'est mes tantes, elles ont plus de 90 balais, hein, d'accord. Enfin, ouais, une en tout cas. Et une en tout cas, elles ont autour de 90 ans en tout cas. Voilà. Et elles regardent la télé, forcément. C'est la génération où la télé, TF1, France 2, France 3, c'est the main channel, you know. Et avant TF1, c'était RCF, tu vois. C'était ça, ça fait. J'ai appris que TF1 avait 50 ans. Ça, je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça, mais non. France 2, France. Et avant, c'était RCF, justement. Il n'y avait qu'une seule chaîne. Bon. Elle regardait des trucs, des émissions, parce que bon, faut passer le temps, quoi. Et je crois que mon père, c'est pareil, hein, parce que lui, il a 80 balais, plus de 80 balais maintenant. Donc, je vais aller le voir demain, lui. Mais bon, je vous le dirai. Mais, je sais qu'il regarde des émissions comme ça, quoi. Les émissions, alors ma famille, c'est comme beaucoup toutes ces personnes qui regardent, hein. Je me moque pas de ma famille, je me moque de personne, je me moque plutôt de la télé, parce que ils se moquent de nous, hein. Vraiment, c'est des trucs, question pour un champion, moi j'ai connu ça quand j'étais plus jeune avec Julien Lepers, notamment, mais là c'est un nouveau présentateur, Samuel il s'appelle, bon... il y a tout le monde, il y avait un truc, c'était Slam, je connaissais pas Slam, mais je comprends rien aux questions déjà je comprends, ouais, je viens de le dire, je comprends pas les questions, donc faut être super intello, hein. Voir à quel point est rendue la France en regardant la télévision, c'est aussi un. Enfin, non, je peux pas dire ça, parce que c'est faux, en soi. C'est pas... la France n'est pas comme ça, mais en tout cas, il y a des programmes télé pour les Français, quoi, qui... Je me dis, putain, ils font exprès de nous rendre... De nous faire croire qu'on est plus con qu'on est, quoi. Ça, je trouve ça très, très, très dommage. Et encore ce midi, là, ils en ont regardé un. Oh là là, le truc... Pareil, des jeux, je comprends rien, je sais même pas ce que c'est le nom du jeu. Tu vois, c'était des questions, le mec, il avait gagné 2 millions d'euros, quoi, il remettait ça. À croire, vraiment, comme la télé nous manipule, comme ce film de George Clooney que j'ai pu voir, Good Night and Good Luck, je vous en ai parlé récemment, là, à se demander vraiment, parce que ma tante dit, oh, j'en ai marre de le voir, il m'énerve, Mais je regarde quand même pour savoir s'il va se faire virer, tu vois, les salauds, quoi. Mais donc il regarde, ça a un appât, quoi. Mais ça se trouve, le mec, il connaît toutes les réponses, la télé lui donne les réponses. Parce que bon, c'est pas forcément des questions compliquées. Mais le mec, il a tout. Enfin, je me dis, waouh, le mec, c'est vraiment un génie, quoi. Enfin, c'est pas forcément un génie, non, parce que. Mais c'est un mec qui a une carte mémoire dans la tête, quoi, tu vois. Ça se trouve, il est connecté à l'IA, quoi, directement. Et il a toutes les réponses. Et des fois, il fait des erreurs, tu vois. Donc, je me suis posé cette question. Ça se trouve, c'est un coup monté de la chaîne. Bon, bah, sinon, bah, il se débrouille bien, tu vois. Enfin, bref, moi, j'aime pas ce genre de truc, mais pas du tout. Donc, j'ai été me coucher. Je suis parti. Anyway. Donc, la guerre, elle est partout. Elle est surtout en nous-mêmes. C'est ça qui est important de savoir. La guerre est en nous-mêmes, à se demander. Et cette guerre en nous-mêmes, elle est créée par l'appât. L'appât d'en avoir toujours plus et davantage. Et la jalousie qui arrive aussi. Parce que pourquoi est-ce que lui, il en aurait plus et moi, j'aurais rien? Tu vois, c'est ignoble. Donc, je vais vous parler du bouquin qui s'appelle Mars ou la guerre jugée du philosophe Alain, qui date de 1936. Donc, avant que la Seconde Guerre mondiale éclate. Donc, il y a des références à la première guerre, à la guerre mondiale, à la guerre qui est la Première Guerre mondiale. Donc, c'est divisé en énormément de petits chapitres. Donc, je ne les ai pas tous, hein, mais je les ai pas tous pris, mais quelques-uns du moins. Donc, le premier, c'est la guerre nue. L'homme est flexible et gouvernable dans ses passions et ne s'en doute point. Donc, c'est en rapport avec la guerre, et en fait, on voit qu'il y a aussi la guerre, donc la guerre contre l'autre, contre le pays voisin, mais aussi la guerre en nous-mêmes. C'est là que Alain, je pense, il y a une métaphysique dont il faut prendre conscience. Je vous le dis avant, même si je sais que vous n'êtes pas des abrutis, hein, vous l'auriez vu vous-même. Mais bon, maintenant, je le dis, ceux qui n'écoutent que d'une oreille, peut-être, bah, je vous le dis. La véritable guerre est en nous. Une première bataille dont les causes n'importent guère, des vaincus qui se croient méprisés, des vainqueurs qui se savent menacés. Ces opinions sont les regards d'abord supposés et aussitôt vrais. Les passions ont cela de redoutable qu'elles sont toujours justifiées par les faits. Si je crois que j'ai un ennemi, et si l'ennemi supposé le sait, nous voilà ennemis. Et le naïf, en racontant ses guerres folles et ses imaginations vérifiées, dira toujours: n'avais-je pas raison de le haïr? Bon, là on va chercher un peu loin, parce que Alain, il a une façon d'écrire. À lui, quoi. Et alors là, j'avais annoté pour une recherche de son mal-être. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour une recherche de son mal-être. Le plus étonnant, c'est que cette haine, surtout collective, est aimée. On recherche cette haine pour aimer quelque chose, quoi. En tout cas, pour tu vois, comme ma tante qui veut pas regarder. Mais qui regarde parce qu'elle veut savoir si le mec il va rester, quoi. Donc, c'est pour le 90 balais, je pense pas qu'elle soit jalouse, mais c'est un peu quand même. Bon. Par un effet contraire, les alliés sont déchargés des aigreurs quotidiennes. Par un effet contraire, les alliés sont déchargés des aigreurs quotidiennes parce que l'ennemi répond de toutes. Bah oui, forcément, un mec que t'aimes pas, il va tout se prendre dans la tête, hein. Ainsi, chacun aime bien par cette haine mise en système. Oui, forcément, t'aimes bien. On voit que de telles guerres n'ont d'autre cause qu'elles-mêmes. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est ce que je vous racontais. La guerre, c'est toi qui la mets, en fait, comme il disait au début. Si je crois que j'ai un ennemi et si l'ennemi supposé le sait, nous voilà ennemis. Mais c'est supposé tout ça. Bon, après, nous, les guerres qu'on a, c'est plus du pouvoir, hein, et puis conquête de territoire, les guerres actuelles qu'on peut avoir, hein, dans le monde. Mais il ne faut pas, faut pas trop s'en aller de la guerre intérieure, quand même. On voit que de telles guerres n'ont d'autres causes qu'elles-mêmes et qu'ainsi, elles iraient toujours s'aggravant si quelqu'un avait intérêt à les faire durer. Heureusement, cela n'est point. Alors là, c'est une. C'est pas vrai. Je pense que tout le monde. Il y a des personnes qui ont intérêt, genre les États-Unis d'Amérique, pour ramasser du pognon, mais en 1936, ils savaient pas vraiment encore. C'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale, ça, que ça s'est vraiment mis en place. Le plan Marshall, l'hédonisme des États-Unis s'est mis en compte à ce moment-là. Avant, à rester dans son coin. Ouais, elle était venue aider l'Europe, quand même, la France en tout cas, à la Première Guerre mondiale. C'était sympa. Ouais, moi, j'avais bien aimé. Très cool. Bon, alors, la paix, par elle-même, sans autre expédient, supprimerait. Expédient? Ben non, expédient. La paix, par elle-même, sans autre expédient, supprimerait presque toutes les causes de conflit. Ben oui, forcément, la paix, c'est le contraire des conflits. Surtout parce qu'au lieu de chercher à exercer le pouvoir, chacun travaillerait contre les abus de pouvoir. Ben, en temps de paix, ce serait ça. Mais on est en temps de guerre. On est en temps de guerre et même la guerre, elle est partout, elle est chez chacun. Donc, non, il n'y a pas de. Il y a des abus de pouvoir, au contraire, là. Là, on veut plus que l'autre, quoi. Comme le mec qui gagne tous les midis, je comprends que ma tante soit agacée. Mais il en veut toujours plus. Il est en conflit intérieur, ou alors il est payé par la chaîne qui lui donne les réponses. Tu vois, moi j'ai pensé à ça, je me suis dit, bah, de toute façon, je vais chercher un peu loin. Mais pourquoi pas? Ou alors, je te dis, bon, il connaît beaucoup de choses. Mais, ouais, enfin, c'était étonnant. Moi, j'ai pas regardé longtemps, mais ça m'a suffi, quoi. Donc, pas cette remarque. Elle m'a dit que c'était tout le temps comme ça, ma tante. Ah bah ouais, et attends, ça fait 17 semaines, je crois, hein, qu'il est à la télé, qu'il gagne tout le temps. Ça fait beaucoup, je crois, tous les jours. Par cette remarque, nous voilà ramenés à considérer ces peuples alliés et ces peuples ennemis d'après les mêmes idées, qui trouvent alors leur pleine implication. Et puisque la haine nourrit la haine, et la colère, et la guerre, tout ce que l'on dit des intérêts inconciliables est à côté de la question. C'est comme si l'on disait que des plaideurs sont ennemis par les intérêts contraires, mais ils sont ennemis parce qu'ils plaident, parce que les fatigues, les soucis, les dépenses de chacun sont inscrites au compte de l'autre. Ah ouais, ce serait bien ça, pour la France. Mais en tout cas, c'est pas le cas. La France, faut qu'on paye un autre truc. Une passion, disait Spinoza, cesse d'être une passion dès que nous en connaissons adéquatement les causes. Ouais, t'aimes un truc et dès que tu sais pourquoi tu aimes, bah t'aimes plus. Ça, c'est vrai. Spinoza avait raison. Ouais. Alors maintenant, le chapitre de l'irrésolution. Chapitre 7. Alors, les mouvements de l'homme vont par explosion, toujours au-delà des causes extérieures. Il est fou d'expliquer les guerres par ces difficultés de chancellerie qui ne manquent jamais. Il faut considérer cet animal si dangereux pour lui-même, donc l'humain, et qui choisit communément un malheur certain plutôt que d'avoir à le craindre longtemps. Je préfère choisir un malheur. Je préfère choisir son malheur, en fait. Il y va, quoi. Les sentiments, cependant, décident de tout, et au premier rang, l'impatience qui entre dans toutes nos affections, d'amour, de haine, d'espoir ou de crainte, sans en accepter une seule. Alors, je vous le concède, ce chapitre n'était pas très intéressant, mais bon, j'avais mis un petit truc quand même. Oh, ça, je vais pour préparer. Voilà. Alors, l'intérêt, chapitre 28. C'est parti, mon kiki. Quand on me dit que les intérêts sont la cause principale des guerres. Bon, ça, c'est apparemment en 36, c'est un peu comme en 2025. Ou en langage plus ambitieux, que ce sont les forces de l'économique qui poussent les peuples les uns contre les autres. Bon, là, on est ça. 1936 et 2025, comme je vous dis, c'est un peu pareil. Je reconnais aisément une idée qui court partout. C'est comme une monnaie usée par l'échange et que l'on reçoit après ce signe seulement. Mais dès que j'examine une telle idée, je la juge faible et sans vérité. Ah, alors là, ça devient intéressant. Comment prouver que ce n'est pas un développement industriel presque démesuré qui a poussé l'Allemagne à la guerre? Alors là, c'est la Première Guerre mondiale, d'accord? Comment prouver que ce n'est pas un développement industriel? Ben, c'est aussi l'archiduc qui s'était fait défoncer la tronche par un anarchiste, hein, à Sarajevo. Mais ça, c'était politique. C'était fait exprès. Ça se trouve, l'anarchiste avait été payé par les Allemands pour qu'il tue le mec de Sarajevo, quoi. Et c'est la CIA qui a tué Kennedy, hein. On n'en sait rien. Enfin, si, on sait. Mais on ne sait pas ce qui se passe, en fait, hein. Tant de gens parlent et pensent contre mon avis. Et le pire, c'est qu'en ce monde humain, ce que l'on croit et même ce que l'on dit est parti du fait. Si les gens croient tout ou presque tout que l'expansion économique ne peut se faire que par une guerre heureuse, tout se passe alors comme si ce qu'ils croient était vrai. Le lieu commun est cause. Je garde pourtant l'idée qu'il est point de l'essence de l'économique de faire la guerre. Ferme conviction qui peut conduire à lire les faits autrement. Mais il faut que j'en rende compte. Alors, ce qu'il fait, je conçois donc, à la manière de Platon, parce qu'il adore Platon. Alain, j'ai un bouquin de Alain, c'est que du Platon. Il est gros en plus. Hein. Un homme construit, comme nous sommes tous, tête, poitrine et ventre. Et je cherche ce qui, dans cet assemblage, fait naturellement paix, guerre ou commerce. Alors, de la partie dirigeante, qui est la tête. Je ne dirai rien maintenant, sinon qu'il me semble qu'elle n'approuve pas la guerre, mais qu'elle s'y laisse entraîner. Personne n'a voulu la guerre, à les entendre. Et je crois qu'ils sont tous sincères. Bon, donc la tête, elle est un peu mouton, quoi. Or, le ventre, lui, est exigeant. Ses besoins principaux, qui sont de nutrition, ne souffrent point de délai. Il faut acquérir et consommer. Par travail et échange, si l'on peut, par violence et meurtre, si l'on ne peut autrement. Voilà donc la guerre, mais point du tout. C'est vol et pillage, ce n'est point guerre. Je ne puis appeler guerre en individu que je veux considérer. Un bandit n'est nullement un homme de guerre. Il nuit aux autres en vue de se conserver lui-même. Un guerrier est un homme qui prend parti de se faire tuer plutôt que de reculer. L'animal se risque bien quand il a faim. Mais il ne résiste pas à une force évidemment supérieure. On le dit souvent, que le ressort de la guerre est dans cette partie animale qui a faim, qui a soif et qui a froid. Mais je ne le crois point du tout. Alors, Gide va nous dire pourquoi. J'aperçois le meilleur guerrier, le thorax. Là siège la colère, fille de richesse et non de pauvreté, d'autant plus redoutable que l'homme est plus dispos et mieux nourri. Car c'est une raison de frapper si l'on menace et si l'on frappe. Ouais. Bon, cherchant victoire, non profit, surtout important. Mais l'homme guerrier se fouette lui-même, frapper, détruire, nuire aux autres et à soi, sans espérance ni convoitise, ni calcul, à corps perdu. Donc là, c'est choix de pouvoir en politique, quoi. C'est ce que j'avais à noter. Ah ouais, c'est. Mais ouais, Alain, en fait, j'aime pas trop. Hein. Enfin, ouais, j'avais trouvé ça sympa, son thème. Mais il y a des moments plus sympas que ça, je crois. Ça fait longtemps que je l'ai pris. Bon, bref.
And when I come over here, I feel quite free. Really free. I feel free over here. And it's one day everything will be as it should be.
Thank you.
Pu écouter Bye Bye Blackbird de Albert Ayler. Donc maintenant, chapitre 30, l'ombrageux esprit. L'homme est naturellement un être qui s'intéresse à autre chose qu'à lui-même.
Ah, on est en 1936, hein, donc c'était avant... Enfin, quand même, là, était quand même très présent l'égocentrisme, le nihilisme. Mais bon... Pour Alain, il était peut-être sur un petit nuage. L'homme est naturellement un être qui s'intéresse à autre chose qu'à lui-même.
Bon, ben, ouais, moi je suis d'accord, parce que, après, ben, au fond, c'est vrai,
parce qu'on est, quand même conditionné à penser qu'à nous. Ça, il faut en prendre compte de ça. Hein. Ça, moi, c'est vérifié. Hein.
Ben, ouais. Alors, pour le vérifier, par contre, il faut s'en aller loin, longtemps, mais seul. Et c'est quand tu reviens que tu le sais, ça. Alors, ensuite... On est dans le chapitre... l'individualisme, tiens, on est dedans. Alors, LXX, ça va faire 70. 78, l'individualisme... Le pouvoir proprement dit me paraît bien distinct de la richesse. Et justement, l'ordre de guerre a fait apparaître le pouvoir tout nu, qui n'admet ni discussion, ni refus, ni colère, qui place l'homme entre l'obéissance immédiate et la mort immédiate. Et c'est vrai, en fait, quand il dit le pouvoir proprement dit me paraît bien distinct de la richesse. C'est vrai, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, je parle aux quarantenaires. Vous savez, quand au cours, au collège, il y avait des petits branleurs qui étaient un peu plus riches, qui avaient des parents friqués, et puis qui étaient habillés avec des trucs... Bah, je sais pas, à mon époque, c'était Gotcha, Quicksilver, Oxbow, c'était des grosses marques. Enfin, ça coûtait cher, quoi. Et puis, c'était en groupe, ils fumaient et tout, à la récré. Ah, t'avais le droit de fumer, hein, à cette époque. Ah, je sais pas si on marquait à la récré. Ah, non, t'avais peut-être pas le droit de fumer à l'école. Bon, en tout cas... Il était en groupe, qui se la pétait vraiment, quoi. Hein. Putain, mais ouais, bon, bref. Ouais. Et ben en fait, ils n'avaient pas de pouvoir. Hein. Bon, ils avaient un pouvoir vraiment minable, quoi. Mais au collège, c'est quand même le pouvoir d'apparence et reste assez important, quoi. Au collège. Mais dès qu'on sort du collège, ça change. Oui, exactement. Donc, je disais, un milliardaire, dit Anna, me ferait rire s'il voulait me gouverner. Je puis choisir, alors, on va, par exemple, Monsieur Elon Musk, hein, on va dire le milliardaire, me ferait rire s'il voulait me gouverner. Bon, ça va, t'es français, il ne te gouverne pas directement, mais un petit peu quand même. Tu vois. Je puis choisir le pain sec et la liberté. Ça, c'est clair qu'on peut tous le faire, encore aujourd'hui. Hein. Tous, mais bon, il y a plein de gens qui ont déjà fait ce choix et qui se retrouvent à la rue, et même quand il fait froid. Hein. Disons donc que le pouvoir, dans le sens réel du mot, est essentiellement militaire et qu'il ne se montre jamais qu'en des sociétés armées. Bon, j'ai pas envie de lire la suite parce que je trouve ça complètement con. Hein. Ouais, je dis, hein, j'avais beaucoup aimé ce titre quand j'ai lu. Je trouve, ouais, il y avait des trucs qui étaient pas mal que je suis en train de vous lire d'ailleurs. Enfin, je vous lis le mieux, hein, à mes yeux, hein, le best-of de mars là. Hein. Mais bon. Et alors là, on va finir par le dernier, the last chapter, you know. Here's the last chapter of the book, yes, baby. It's chapter number CX3, so that means 113. 113, yes. Alors, un ami qui avait autrefois de la pénétration et qui n'a plus. Oh là, attends. Ah ouais, là, je me suis dit, ça aurait peut-être pu plaire à Foucault parce qu'il parle de fous. Alors, les fous sont des méchants, écrit-il. Et comme l'idée de la fatalité doit être ici considérée attentivement, les fous ne seront l'occasion de comprendre encore mieux les passionnés. Et c'est pour les passionnés que j'écris. Car aux politiques, je n'ai rien à dire. Ils jouent leur jeu. La fatalité, donc, s'annonce. Bah, politique comme Trump, c'est un jeu, quoi. Quand je repense à ce qu'il a dit sur Gaza, quoi. À mes yeux, depuis mon point de vue, c'est un jeu. Ok? On se calme. La fatalité, donc, s'annonce par un sentiment vif ou pressentiment de ce que nous allons faire, de ce que nous ne pouvons pas ne pas faire. D'accord? Alors, si nous arrivons à prévoir par des causes un crime ou une colère ou une guerre, nous serons conduits, comme il arrive, à changer les causes et à éviter ainsi des effets. Tu vois, il raconte des trucs, mais en 36, c'était peut-être à la limite. Tu vois, c'était encore, il faisait beau, quoi. Tu vois, l'entre-deux-guerres, c'était encore très beau. Mais on ne savait pas que c'était l'entre-deux-guerres. On ne pensait pas qu'il y avait une deuxième guerre mondiale qui allait éclater. Bah, on se disait, ouais, en Allemagne, non, là, Hitler, bah, si tu te renseignais, lui, il habitait à Paris, il lisait le journal, quoi. Donc, peut-être que, oui, il y avait quelques articles, sûrement, par-ci, par-là. Mais c'était beau. Stefan Zweig, lui-même autrichien allemand, le disait. C'était beau. C'était. Et là, je me moque de lui, Alain, mais on le voit aussi. Pour lui, le monde était magnifique, quoi. Il n'y avait pas de méchants, il n'y avait que des gentils, même. Et on pourrait même donc aller jusqu'à dire que la Deuxième Guerre mondiale est le début, la genèse, en fait, de tout du monde actuel. Et donc, on va finir par les dernières lignes du dernier chapitre. C'est parti. Alors, les effets matériels de la guerre ne m'ont jamais troublé jusqu'au fond. Je sais qu'il faut peu de choses pour tuer un homme. Et que des mains, ça suffit de toute façon déjà. Et que des forces bien plus puissantes que nous nous menacent sans cesse. Alors, déjà, ok. Ouais. Bon, là, ok. J'accepte cette condition humaine. Cette planète à éruption ne nous a rien promis. Le malheur est pour là, autour, mais non le mal. Le malheur est par là, autour, mais non le mal. Le mal est dans cette colère contre celui qui veut aller à la source des maux humains. La fureur de ceux qui acceptent la guerre et qui prennent cette acceptation comme un accomplissement, comme une perfection de leur destinée d'homme. Ainsi, cette volonté mauvaise qui ne frappe point, qui ne menace point, mais qui condamne, je la vois flamboyante et sanglante, déjà et trop punie. Sans la liaison. Trop punie. Punition, punie, quoi. Sombre malédiction sur soi, déjà visible dans un enfant obstiné qui refuse le pardon. Mais l'enfance est flexible et oublieuse. L'homme mûr, jauni, aigri, irrité par tant de preuves qu'il a cherchées et voulues, déçu et content parce qu'il l'a tant de fois prédit. Voilà l'ami difficile que je veux réfléchir. Je lui demande de faire grâce à la jeunesse. Au reste, mon pouvoir expire aux frontières de son royaume, c'est lui. En fait, non mais Alain... Bon, quand il écrivait, c'était sûrement très bien. Mais là, non. Bon, alors, la prochaine Bergerus, demain, n'est-ce pas? Ouais, demain. Ça portera sur la littérature du XXe siècle et le christianisme. Et un chapitre que je trouve génial, c'est sur Kafka. Ouais, c'est excellent.
Rester comme on est.